Cela fait plusieurs semaines que nous avons entamé, que nous suivons l'étude du sermon sur la montagne, ce magnifique enseignement de Jésus à ses disciples. Et pour aujourd'hui, nous allons continuer cette étude en la reprenant ensuite en septembre. Nous avions vu le Notre Père et je vous invite à lire une dernière instruction de Jésus sur la vie de piété de ses disciples dans la suite, dans Matthieu 6, versets 16 à 18. Matthieu 6, les versets 16 à 18. Jésus a parlé de la prière, Jésus a parlé des aumônes, et il dit, en abordant un autre sujet, « Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites. Ils se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. En vérité, je vous le dis, ils ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là, dans le secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Voici l'été qui arrive, avec ses moments de relâche, de convivialité, ses apéros en famille ou entre amis, ses repas où l'on prend du temps d'être ensemble et de se régaler. Et voici notre lecture du Sermon sur la montagne, magnifiquement en phase avec tout cela, et qui nous parle de jeûner. Lorsque vous jeûnez, dit Jésus à ses disciples. Fallait-il sauter ce passage sous prétexte qu'il n'est pas d'actualité au moment où on aime prendre du bon temps? J'ai préféré saisir l'occasion pour réfléchir à ce que la Bible nous enseigne sur ce sujet. D'autant plus que, vous l'aurez remarqué, ce thème n'est pas pour Jésus dans le style du thème triste. Jésus parle de parfumer sa tête, de laver son visage, autrement dit de se mettre en fête. C'est l'orientation de mon propos de ce matin. Parler du jeûne comme joie, comme la joie de l'ouverture à Dieu. Ne soyez pas hypocrites, nous dit Jésus. Certains, lorsqu'ils jeûnent, rendent leur visage tout défait. Littéralement, nous dit Jésus, ils détruisent leur visage. Ils veulent vraiment qu'on puisse lire sur leur visage combien c'est dur, combien ils font un effort pesant, combien c'est immense. Et ils veulent qu'on les admire pour leur abnégation. Mais Jésus propose le contraire. Présenter un beau visage, un visage heureux, un visage parfumé lorsque tu jeûnes. Mais, précise-t-il, sans être hypocrite. Ça veut dire que pour Jésus, le jeûne n'est pas une tristesse, n'est pas une abnégation, parce qu'autrement, faire comme si c'était bien alors que c'est dur, ce serait une autre hypocrisie. Sans hypocrisie, dit Jésus, parfume ton visage. C'est sans hypocrisie qu'on peut le faire, parce que pour Jésus, jeûner semble bien plus du côté du bienfait que du côté du manque. C'est plus une bénédiction et une richesse qu'un temps pénible et douloureux. Ce jour-là, on peut se parfumer le visage en toute vérité. Qu'est-ce que le jeûne? Et qu'a-t-il selon la Bible et selon Jésus? Jeûner, c'est s'abstenir de nourriture volontairement ou non, pendant un temps donné. Certains jeûnes sont imposés par les circonstances et ils ne sont pas choisis. Ce sont les situations de pauvreté, de dénuement. Et il n'est pas inutile de nous rappeler qu'aujourd'hui encore dans notre monde, 800 millions de personnes, c'est-à-dire une personne sur 9, souffrent encore de la faim. Et de nous rappeler qu'aujourd'hui encore dans ce monde, 66 millions d'enfants vont à l'école le ventre vide. C'est notre monde d'aujourd'hui. Ce jeûne-là n'est pas choisi. Ce jeûne-là devrait être combattu par plus d'égalité, par plus de solidarité. Jésus parle ici d'un jeûne volontaire, d'un jeûne choisi. Ce jeûne que l'on choisit est une pratique ancienne. Mais si l'on pense à l'actualité, il a depuis quelques années, dans nos pays occidentaux, le vent en poupe. On lui prête aujourd'hui tous les bienfaits, physiques, psychiques, spirituels. Il apporte bien-être, vitalité, détox, régénération, activation de l'activité neuronale. Les stages de jeûne se multiplient aujourd'hui et sont offerts à ceux qui veulent passer une semaine un peu particulière. Jeûne et randonnée, près d'Aix-en-Provence, il y en a plein. Cure, détox et bien-être. Les régimes à base de jeûne partiel, régime 5-2, 2 jours de jeûne, 5 jours de nourriture normale, ont de bons résultats et renouvellent l'hygiène de vie. J'en suis témoin. Aujourd'hui, on jeûne pour faire l'expérience d'une libération, d'un désencombrement, d'un mieux-être physique, psychologique, spirituel. Du point de vue de la spiritualité, toutes les religions préconisent l'une ou l'autre forme de jeûne. Certaines le font au nom de l'ascèse, où il faut en quelque sorte priver le corps pour favoriser le spirituel. On oppose le physique et le spirituel. D'autres le font pour contenir le désir, pour prendre une distance par rapport à la tyrannie des besoins qui empêche le détachement nécessaire. Ça, c'est la vision du jeûne dans les religions orientales. D'autres intègrent le jeûne dans un système de mérite. C'était le cas des pharisiens au temps de Jésus. D'autres vivent ce jeûne comme un temps particulier d'obéissance à la loi divine, comme un temps où, dans une période toute spéciale, on va chercher à plaire à Dieu, uni à tous les croyants et dans le souci des autres. C'est le sens du Ramadan en particulier. Au temps de Jésus, les pharisiens jeûnaient deux fois la semaine, le lundi et le mercredi. Jésus ne l'ignorait pas, puisque dans une de ses paraboles, il met en scène un pharisien, justement, qui affichait de cette façon-là sa satisfaction spirituelle. « Je jeûne deux fois la semaine, je donne la dîme de tout. » C'est ce qui lui permettait d'être en pleine assurance devant Dieu. On voit ici un jeûne qui vraiment est la source d'une autosatisfaction, où on pense qu'on a un mérite devant Dieu parce que l'on fait cela. Mais Jésus met en face de cet homme tellement satisfait de son jeûne, un pauvre pécheur qui lui demande grâce. Et il dit, mais c'est cet homme-là qui sera accepté, et non pas celui qui cherche dans son mérite une assurance personnelle qui lui permettrait de se faire valoir lui-même devant Dieu. Les disciples de Jean-Baptiste jeûnaient eux aussi, et même fréquemment, nous dit Luc au chapitre 5, verset 33, comme les pharisiens. Mais il le faisait dans une perspective assez particulière. Jean-Baptiste était le précurseur, celui qui avait pour mission de préparer un peuple bien disposé à la venue du Seigneur. C'était donc un jeûne d'ouverture à Dieu et d'attente vraiment de son intervention. Ça, c'est les disciples de Jean-Baptiste. Les disciples de Jésus, eux, ne jeûnaient pas. Et cette différence a été remarquée. Elle a suscité de vraies questions même, notamment de la part des disciples de Jean qui sont venus vers Jésus pour lui dire « Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que nous et les pharisiens en jeûnent alors que tes disciples à toi ne jeûnent pas ?» Matthieu chapitre 9. La réponse de Jésus a été très claire. Elle souligne que ce serait totalement inapproprié. Le temps de sa présence est un temps de joie, un temps de plénitude, c'est le temps de la manifestation de la présence du royaume de Dieu. Serait-il juste, dit Jésus, de jeûner pendant un temps de noces, en pleine festivité de mariage, alors que l'époux est là, autour de ses invités? Il faut vivre, dit Jésus, la nouveauté du royaume. On ne met pas le vin nouveau dans des vieilles outres, il faut désormais de nouvelles outres. Et c'est pourquoi les disciples de Jésus ne jeûnaient pas. Une vraie différence. parce que Jésus est là. C'est beau, c'est le temps de la présence, de la manifestation du royaume. Et cette forte affirmation de Jésus sur sa présence, la manifestation du royaume, règle la question du jeûne pour certains chrétiens. Certains chrétiens disent, ben ça y est, nous vivons la présence de Jésus. Nous voulons donner une pleine valeur à cette présence qui est joie, qui est plénitude, qui est vie abondante. Nous ne voulons pas jeûner comme si Jésus n'était pas venu, comme s'il n'habitait pas en nous par son esprit. Deuxième motif de relativisation du jeûne pour bien des chrétiens, nous vivons aussi et pleinement de la grâce de Dieu. Nous avons tout pleinement en Jésus, nous l'avons lu encore dans ce texte de Romains 8. Nous vivons pleinement de la grâce de Dieu qui nous accueille, qui nous pardonne, grâce à l'œuvre de Jésus et l'œuvre de Jésus seul. Nous refusons donc toute idée de jeûne qui nous permettrait par nos privations volontaires d'être mieux acceptés par Dieu. Ce n'est pas ça notre base. On est sur autre chose que ça. Aucune œuvre méritoire n'a sa place dans la relation avec Dieu, comme le pensent tant d'autres religions. On ne va pas faire comme les autres, on ne va pas jeûner de cette façon comme les autres. Il faut marquer cette différence. C'est par grâce qu'on est devant Dieu et confiant dans tout ce que Dieu a fait et manifesté en Jésus. Et puis nous croyons aussi, troisième raison, au Dieu créateur. C'est lui qui nous a donné un corps. Nous n'avons donc pas à brimer ou à mortifier ce corps pour être plus spirituel. Nous n'avons pas à négliger les bienfaits que Dieu nous accorde dans une vision ascétique de la spiritualité. Ce n'est pas du tout cela, la vision chrétienne des choses. C'est riche de tout ce que Dieu nous donne, que nous voulons vivre devant lui, dans la reconnaissance envers lui, dans l'amour du prochain. Se priver des dons de Dieu pour soi-disant mieux lui plaire, ce n'est pas honorer le Dieu créateur et sa bonté généreuse. Et c'est ainsi que bien des chrétiens vivent une belle relation avec Dieu, une vraie et riche vie de prière, mais sans intégrer le jeûne. Le jeûne, pour beaucoup de chrétiens, a toujours un petit côté suspect. Est-ce qu'on n'est pas en train de faire valoir un petit peu nos œuvres devant Dieu ? Est-ce qu'on ne fait pas de la privation humaine un argument ou un moyen de pression sur Dieu ? N'est-ce pas revenir finalement à une piété marquée par l'Ancien Testament plutôt que par Jésus et la belle nouveauté que Jésus apporte ? Essayons à présent d'identifier quelques repères bibliques autour de cette question du jeûne. Quand voyons-nous dans la Bible des personnes jeûner et quel est le sens de leur acte ? Je distinguerai trois grandes orientations. Le jeûne est d'abord, premièrement donc, une manière par laquelle, à certains moments, on exprime sa repentance, où l'on s'humilie devant Dieu. Dans l'Israël ancien, chaque année, on jeûnait lors du grand jour des expiations, le Yom Kippour. Ce jour-là, un sacrifice était fait, et ce sacrifice valait pour l'expiation de tous les péchés de tout le peuple. Mais chacun, ce jour-là, devait tout spécialement faire un retour sur lui-même. Chacun, ce jour-là, devait tout spécialement se présenter devant Dieu en reconnaissant son indigence et dans l'attente du pardon que Dieu seul pouvait donner. Et cette attitude se concrétisait par un jeûne. Alors le texte n'emploie pas le verbe jeûner. Dans Lévitique 16, versets 29-31, il est dit « Ce jour-là, vous humilierez vos âmes ». Mais il s'agissait bien d'un jeûne, parce qu'on envisageait de retrancher du peuple celui qui ne le ferait pas. Si on dit qu'on va retrancher, c'est que ça se vérifie d'une manière ou d'une autre. Comment vérifier intérieurement qu'on humilie son âme ou pas ? Il fallait que ce soit quelque chose de concret. Donc si on parle du jeûne en disant « vous humilierez votre âme », c'était parce que on voulait dire par là et insister sur le sens profond de l'acte. Ce n'est pas juste extérieur, c'est humilier son âme. Ce n'est pas l'humiliation du corps, c'est l'humiliation de l'âme. On descend au plus profond de sa pauvreté. Dans l'histoire du peuple de Dieu, le jeûne accompagne ainsi assez souvent le retour à Dieu ou la repentance. C'est parfois individuellement, c'est parfois collectivement. Lorsque les prophètes invitent le peuple à revenir à Dieu, il arrive justement qu'il déclare, qu'il propose une journée de jeûne pour bien marquer ce retour au Seigneur. Maintenant, ce qu'il faut remarquer, c'est qu'on n'attend pas du jeûne en lui-même un effet particulier en vue du pardon. Lors du grand jour des expiations, par exemple, c'était très clairement le sacrifice offert qui était décisif pour le pardon. Ce n'était pas le jeûne qui faisait la différence. Le jeûne était là pour le croyant. Il permettait d'exprimer vraiment, d'une manière très concrète, son besoin de Dieu, son besoin de pardon, son humiliation, son regret peut-être de ce qui n'avait pas été son attente de Dieu. On entre dans un cheminement qui implique la personne, où le corps est intégré, où le temps joue aussi. Une journée de jeûne, c'est un temps où l'on est dans cette attitude. L'humiliation, donc, est cette manifestation du besoin de Dieu, de son pardon, première attitude liée au jeûne. Mais deuxièmement, le jeûne accompagne aussi la prière dans certaines situations de besoin particulier. On voit par exemple David jeûner et prier plusieurs jours pour l'enfant qu'il a eu avec Bathsheba, afin de supplier Dieu de l'épargner, cet enfant. Josaphat publie un jeûne aussi pour chercher le Seigneur à un moment où il est face à une menace militaire qui le dépasse totalement. On vient vers Dieu, on jeûne parce qu'on a tellement besoin de son intervention. Esdras et ceux qui reviennent avec lui de l'exil jeûnent et invoquent le Seigneur avant d'entreprendre le voyage périlleux depuis Babylone jusqu'à Jérusalem, où ils risquent d'être attaqués, mais où ils ont dit on ne veut pas prendre une défense de l'armée qui nous est proposée, on veut s'attendre à Dieu. On voit aussi des croyants comme Néhémie ou Daniel jeûner et prier pour leur peuple en s'humiliant et en implorant le Seigneur de délivrer, d'agir. Le jeûne donc accompagne certaines prières, certaines demandes particulières dans des situations qui sont particulièrement difficiles, avec des attentes qui sont particulièrement fortes. Et ne pas manger dans ces situations, ce n'est pas, bien sûr, ce n'est surtout pas entamer une grève de la faim pour faire pression sur le Seigneur en disant « si tu ne fais pas quelque chose, il va m'arriver malheur ». Ce n'est pas du tout cela. C'est bien plutôt une façon de s'ouvrir totalement à Dieu, tout en lui exprimant une demande qui compte plus que tout et qui a priorité sur les besoins de la vie ordinaire. On dit aussi en parole et par le corps que l'on est totalement démuni sans Dieu, qu'on a faim et soif de sa réponse avant tout, qu'on attend tout de lui. Dans cette même ligne du jeûne comme demande, le jeûne est parfois la prière de l'attente. Pendant l'exil, on a institué des jeûnes le 4e, le 5e, le 7e et le 10e mois. Et on avait fait ça en fonction du souvenir des moments clés de la destruction de Jérusalem et de son temple. On se souvenait de ces moments douloureux, mais on jeûnait pour dire au Seigneur qu'on attendait aussi le moment où il restaurerait toutes choses comme il l'avait promis. L'attente, c'était aussi le sens du jeûne des disciples de Jean-Baptiste. Il disait l'attente des temps nouveaux. Donc deuxièmement, le jeûne comme demande particulière, le jeûne comme attente de Dieu et de la réalisation de ses promesses. Quel a été, troisièmement, le sens du jeûne de Jésus lorsqu'il a passé 40 jours au désert, juste avant de commencer son ministère public. Il nous a dit que là, le Seigneur a jeûné pendant cette longue période. Ce n'est pas un temps d'humiliation pour le Seigneur Jésus. Il n'en avait pas besoin. Ce n'était pas non plus une prière de demande ou de manque. Mais le jeûne de Jésus à cet endroit-là, à ce moment-là, est bien plutôt un temps d'ouverture totale au Père. Jésus se présente à son Père, poussé par l'Esprit, et il prend un temps pour manifester qu'il se consacre tout entier à ce que le Père veut de lui, qu'il se consacre tout entier à son Père, qu'il se rend pleinement présent à lui seul, avant de commencer ce que le Père, la mission que le Père lui a confiée. Il affirme ainsi que son Père est l'unique source de tout son être. Il s'ouvre à lui entièrement, sans réserve. Il affirme que toutes ses ressources sont en lui seul. Il cherche ses forces en sa présence. Il vit cela au désert pendant 40 jours. Cela évoque aussi la marche d'Israël au désert, dans la dépendance, dans le besoin de Dieu, sans autre ressource que le secours de Dieu, sa providence, la manne que Dieu donnait, l'eau à laquelle Dieu pourvoyait. Ce temps de jeûne est un temps pour Jésus d'entière ouverture et de disponibilité au Père et à ce que le Père lui demande. Ma nourriture, c'est de faire ta volonté. Le Fils ne fait rien de lui-même, disait-il, mais il fait tout ce qu'il voit au Père. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Jésus illustre ici le jeûne dans un troisième aspect, le jeûne comme ouverture à Dieu, ouverture totale à Dieu. C'est là aussi que Jésus sera tenté, et ça nous rappelle que si nous consacrons un temps particulier au Seigneur, ce temps n'est pas à l'abri de la tentation. Mais Jésus a eu besoin d'un temps particulier où il a concrétisé sa dépendance, son ouverture au Père. Ce temps a eu de la durée. Ça n'a pas été juste une prière à la va-vite pour dire « Oui, Seigneur, je veux faire ta volonté ». Non, non, il l'a manifesté dans la durée. Il a impliqué tout l'être de Jésus, son corps, son âme. Son corps criait de faim. Ce cri disait aussi le désir de son âme, j'ai besoin de toi, j'ai soif de toi. Mais en même temps, si le corps criait de faim, la paix de l'âme apaisait les cris du corps et disait combien les ressources sont en Dieu. Oui, corps et âme, Jésus s'est ainsi rendu présent à son Père, dans l'ouverture, dans l'accueil de sa volonté, dans l'attente de sa direction, en faisant de lui la seule source de sa vie et son bien suprême. Humiliation, requête particulière, ouverture à Dieu. C'est dans ces trois registres que le jeûne prend sa place et son sens. C'est une forme particulière de prière qui inclut le corps, qui inclut le temps, et qui fait entrer dans une démarche où l'on est tout entier devant Dieu, entier dans sa demande, entier dans son ouverture à Dieu, tout en exprimant un besoin total de Dieu et une attente entière dans le Seigneur. Alors une fois qu'on a dit tout cela, la question qui se pose, c'est comment intégrer le jeûne dans notre vie ? Faut-il l'intégrer ? Jésus, nous l'avons dit, n'a ni ordonné ni institué un jeûne obligatoire. Et il nous faut en prendre acte. Le jeûne chrétien ne peut être que un jeûne choisi, un jeûne volontaire. Pas de temps de jeûne, pas d'obligation de jeûne. Jésus, nulle part, ne fait cela. Mais Jésus parle du jeûne comme quelque chose qu'il envisage naturellement pour ses disciples. « Lorsque vous jeûnez, leur dit-il, Tout comme il leur dit, lorsque tu fais l'aumône ou lorsque vous priez. Jésus parle cela tout simplement, tout naturellement, c'est simple, c'est naturel. Ça suggère une pratique intégrée dans la vie du disciple. Jésus en parle simplement. C'est ce qu'il répond d'ailleurs aux disciples de Jean-Baptiste. Pas question, dit-il, pour les inviter de jeûner lorsque l'époux est là, que c'est la noce qui est en cours. Mais, poursuit Jésus, lorsque l'époux leur sera enlevé, alors ils jeûneront. Donc Jésus dit, oui, pour mes disciples, pour l'instant, bien sûr, je suis là, c'est pas question d'être là dans le jeûne, dans le manque, mais viendra un temps où il y aura place pour cela, pour le jeûne encore. Jésus invite donc le jeûne naturellement, mais sans le prescrire. Il n'y a pas de période de jeûne chrétienne. Le carême a été institué par l'Église catholique en relation avec les 40 jours de Jésus au désert et pour préparer à la Pâque. C'est un choix qui a été fait. Il a peut-être sa sagesse, mais Jésus n'a pas institué un jeûne de ce genre. En liant le jeûne à l'aumône et à la prière dans le secret, Jésus insiste beaucoup plus sur le sens à donner au jeûne. Il doit s'intégrer dans notre vie avec Dieu, comme un élément de notre relation au Père, mais aucun cadre extérieur n'est fixé. Lorsque vous jeûnez, dit Jésus, de quel genre de jeûne s'agit-il ? Si on l'envisage dans le régulier de la vie d'un chrétien. Les jeûnes d'humiliation ou les jeûnes liés à un besoin particulier ont un côté exceptionnel parce que vraiment on veut s'humilier devant Dieu, c'est particulier, on en sent le besoin. Parce que vraiment il y a une vraie demande, un vrai besoin, on le fait de manière particulière. Par contre, le jeûne d'ouverture à Dieu, le jeûne où on exprime le désir que Dieu ait vraiment sa place, une place unique, toute spéciale, par-delà tout ce qui nous encombre tellement au quotidien, ce jeûne-là, lui, a pleinement sa place dans la régularité d'une vie chrétienne. Il exprime en tout cas une attitude spirituelle utile à cultiver, utile à renouveler. Et personnellement, c'est ainsi que je reçois cette parole de Jésus, lorsque tu jeûnes, une invitation à inscrire dans la régularité de notre vie avec Dieu une ou des journées où nous choisissons de jeûner, simplement pour renouveler notre ouverture à Dieu, pour dire plus fort notre appartenance au Seigneur, notre dépendance de lui. Notre volonté qu'il ait vraiment sa place au cœur de notre vie. Cela suppose que si on décide d'un jour de jeûne où l'on ne mangera pas, qu'on fasse plus que de ne pas manger, qu'on réserve aussi des temps particuliers où vraiment on s'approchera du Seigneur pour dire « c'est toi qui es mon vrai bien, c'est toi qui es ma nourriture, c'est auprès de toi que je cherche mes ressources ». Cela, on peut le vivre sans être obligé de mettre un jour à part, de ne pas vaquer à ses occupations quotidiennes. Ça peut se faire vraiment dans le cadre d'une journée de travail, dans le cadre d'une journée normale. Jésus dit d'ailleurs, les autres, ils n'ont même pas à le voir que tu le fais. Donc ça peut s'inscrire dans nos occupations quotidiennes. Mais cela veut dire qu'on prend ce jour-là un temps à part pour le Seigneur, ou des temps à part, des pauses pour être auprès de lui. Le temps que l'on aurait consacré au repas devient un temps de prière. On va s'isoler pour cela, bien sûr, si on le fait, prendre un temps à part au lieu de manger. Et la journée entière sera vécue avec cette dominante. Seigneur, je suis là, en une journée où je veux vraiment que ce soit toi qui aies la première place, et je veux le manifester par cette manière de chercher mes ressources qu'en toi. Et on réduit ainsi tout ce qui, au quotidien normal, prend plus de temps, prend de la place. On réduit les repas, jeûne de cette façon-là. Mais je pense qu'il y a d'autres jeûnes à faire lorsque vraiment on veut consacrer une journée au Seigneur. Réduire un petit peu les écrans, par exemple. Un peu moins d'ordinateurs, un peu moins de télé, un peu moins de smartphone. C'est ça aussi, jeûner. Et dire au Seigneur, c'est toi qui prends la place là aujourd'hui. Alors, on fait ce qu'on a à faire, mais quand même, une place. Dire au Seigneur, mes ressources sont en toi. Dire au Seigneur aussi que tout ce qui fait notre frénésie quotidienne, on veut un petit peu l'apaiser, parce que c'est lui qui doit être au centre. Un jeûne, une journée où on sera un peu plus que d'habitude dans l'intériorité. Un jour où on veille vraiment que la note particulière de la journée soit cette ouverture à Dieu, soit cette disponibilité pour lui, soit ce renouvellement de notre don au Seigneur, de notre joie de lui appartenir, de notre désir de marcher avec lui. Certains choisissent de faire cela une fois par mois. D'autres choisissent un jour particulier de la semaine où c'est marqué, c'est comme ça qu'ils le vivent. Je n'impose rien, ça se passe entre Dieu et nous. Mais le sens profond d'un jeûne d'ouverture, c'est cela, me semble-t-il. Et cette pratique régulière est une belle discipline de vie avec Dieu. C'est un geste d'ordre au milieu de tout ce qui nous encombre tellement, de toutes ces futilités qui sont là, qui prennent parfois tellement de place. Un geste d'ordre pour dire ce qui compte vraiment. C'est un geste de remise en place de nos priorités qui nous rappelle que l'homme ne vivra pas de stress seulement, mais qu'il vivra aussi de temps choisi pour se recentrer, pour revisiter ses essentiels. C'est un moment de liberté aussi, un moment où on s'affranchit intérieurement de tant de choses qui autrement nous tiennent. C'est un moment de bonheur, où l'on dit à Dieu la place toute spéciale qu'il a pour nous, où on lui dit qu'on veut vraiment qu'il la garde, cette place spéciale pour nous, et qu'on le manifeste comme cela. C'est pour ça qu'il n'est pas question d'avoir le visage défait ce jour-là, d'avoir un visage triste. Ces jours-là, c'est des jours de soleil, c'est des jours de joie profonde. La faim, le manque qu'on peut ressentir parce qu'on ne mange pas sont des signaux d'une richesse bien plus grande à laquelle on aspire et d'une réalité bien plus nourrissante que l'on possède en Dieu. C'est cela ce que cela dit, un jeûne comme cela d'une journée. Alors, il y a aussi les jeûnes plus particuliers où on est face à un besoin, à une situation plus criante. Quel est le lien entre ce jeûne régulier et les jeûnes particuliers? Il me semble que celui qui vit le jeûne dans la régularité, dans la simplicité, saura le vivre aussi très naturellement, dans des situations plus particulières. Mais il me semble qu'il faut dire que dans ce cas-là, la régularité va porter l'exceptionnel. Et la régularité va donner force à l'exceptionnel. Alors on a bien sûr la liberté de jeûner à un moment particulier où vraiment on implore le secours de Dieu. Mais il me semble que ce jeûne en forme de ce jeûne peut-être intense, en route secours, n'a pas la même valeur s'il est isolé que s'il s'inscrit dans une ouverture à Dieu qui est cultivée plus régulièrement. Dans la vie avec Dieu, les grands coups d'éclat ponctuels sont moins constructifs et moins signifiants que les constantes et les régularités. Et c'est pour ça qu'il me semble que c'est bon d'inscrire comme une régularité ce jeûne d'ouverture à Dieu. C'est ainsi aussi que je comprends la parole qui dit que certaines victoires ne s'obtiennent que par le jeûne et la prière. Matthieu 17, verset 21. Alors tous les manuscrits dans ce texte ne mentionnent pas le jeûne, mais s'il faut ajouter le jeûne à la prière pour être capable de faire face à une situation plus précise, c'est plutôt le jeûne régulier qu'un jeûne particulier et intense juste pour l'occasion. Et je propose que l'on considère qu'un chrétien est beaucoup plus fort s'il pratique le jeûne régulier pour prier ensuite face à une situation plutôt que dire que voilà une situation où tout d'un coup il faut jeûne et prière et toute l'armada. Ça ne sort que par le jeûne et la prière. Des délivrances ne viennent donc que cela. C'est les régularités qui construisent notre vie. Et sur la base des régularités, on peut faire de l'exceptionnel. Les premiers chrétiens semblent avoir été dans cette logique. On a assez peu d'informations sur la façon dont ils vivaient leur piété, leur jeûne. Mais quand même, en Acte 13, on a un exemple intéressant dans l'église d'Antioche. Il nous est dit que pendant que les responsables de l'église d'Antioche servaient le Seigneur et jeûnaient, le Saint-Esprit a suscité l'initiative de la mission en demandant qu'on mette Paul et Barnabas à part. Il dit « pendant qu'ils servaient le Seigneur et qu'ils jeûnaient ». Et là, on est dans le régulier. Ils sont en train de servir le Seigneur et de jeûner. C'était apparemment leur façon de servir. Ils avaient des moments où ils jeûnaient ensemble dans leur service du Seigneur. Et c'est à ce moment-là que le Seigneur leur a parlé. Et une fois cette parole reçue, au moment où il s'est agi vraiment de la mettre en œuvre et d'envoyer Paul et Barnabas, alors, est-il dit, après avoir jeûné et prié, ils imposèrent les mains et les laissèrent partir. Et on voit ici qu'il y a le régulier, pendant qu'ils jeûnaient et priaient, le Seigneur agit, le Seigneur leur parle, et puis il y a l'exceptionnel, il y a un moment particulier. Et là, vraiment, on jeûne face à cette nouvelle étape et en envoyant Paul et Barnabas. Le régulier soutient l'exceptionnel. Et c'est ainsi aussi que, dans la suite des églises fondées par Paul et Barnabas, le jeûne a sa place. Acte 14, verset 23, dans chaque église, Paul et Barnabas firent nommer des anciens et après avoir prié et jeûné, ils les recommandèrent au Seigneur en qui ils avaient cru. Le jeûne intégré dans une vie régulière et qui permet ensuite aussi de pouvoir faire face à d'autres situations. Alors, quelle est la fonction du jeûne lorsqu'il s'ajoute à la prière ? Ajoute-t-il de l'efficacité à la prière ? Non, pas en lui-même. Ce n'est pas le jeûne qui apporte une efficacité à la prière. Il peut éventuellement apporter une efficacité dans la mesure où, à cause de l'attitude à laquelle il renvoie, mais jamais un acte liturgique ou physique, simplement corporel, n'a une efficacité en lui-même. Est-il un bras de fer avec Dieu pour forcer le Seigneur devant notre dénuement ? Surtout pas, ça n'a rien à voir avec cela. Ce n'est pas la vision biblique de la prière d'obliger Dieu de faire des trucs simplement parce que nous, on se met en situation de détresse. La fonction du jeûne, c'est de nous ouvrir à Dieu. C'est de nous recentrer sur lui comme notre bien suprême. C'est aussi la valeur d'une démarche, je l'ai dit, qui s'inscrit dans la durée plutôt que de faire juste une demande au lance-pierre. On fait tellement de prières comme ça, « Seigneur, bénis », et puis on passe à autre chose. Mais il y a des moments où ça vaut la peine un peu de donner du temps, de donner de la durée à ce que l'on désire. Et le jeûne a cette fonction-là. C'est une approche de Dieu qui met le Seigneur au centre, vraiment, mais qui le fait simplement, dans le secret, nous dit Jésus, entre Dieu et nous, sans excès autodestructeur, sans se mettre dans des états psychiques particuliers, sans faire de surenchère, de l'exploit, nous en jeûne 7 jours, nous 12, nous 40. Cela peut se vivre dans le secret, dans la richesse d'une intimité renouvelée avec notre Père. Ce jeûne d'ouverture, dans la simplicité, ce jeûne-là est joie, il est bien fait, il est délestage, il est lumière d'une belle présence de Dieu, il est lumière d'une belle présence à Dieu. C'est pourquoi, si tu le pratiques, ne prends pas un visage tout défait, mais parfume ta tête. Amen.